Oui, je pense que, évidemment, je suis entièrement d'accord avec toi. Il nous faut trouver le moyen d'accompagner cette évolution plutôt que d'essayer de faire perdurer un ancien système qui n'est plus adapté à notre réalité d'aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, parmi tes propositions, notamment vis-à-vis du jeu, tu dis, ce qui me paraît tout à fait juste, que les auteurs sont avant tout heureux de voir leurs œuvres diffusées, connues du public. Et quelque part, c'est un peu une économie du don avec en plus la vente de produits premium qui te semblerait une piste très intéressante.
Oui, exactement. Justement, c'est... Comment dire ? Effectivement, c'est... J'ai un petit trou. Vas-y, Tariq, je t'en prie.
Moi, j'ai toujours un peu peur quand on parle d'économie des dons. Moi, je pense que il faut pas que le débat soit idéal des deux côtés. Donc, et je pense que c'est important qu'on respecte les choix des gens qui veulent mettre ou pas en ligne leur contenu. Et c'est vrai qu'il faut leur apporter les outils. Aujourd'hui, ce qui est génial avec les contrats de distribution type Creative Commons, c'est que l'artiste a le choix. Donc, effectivement, il y a une nouveauté, une évidence, c'est que les contenus s'échangent sur l'Internet. Donc, la licence autorise, dans un certain cadre qui est juridique, ces échanges. Mais ensuite, c'est à lui de choisir quel modèle il veut utiliser, s'il souhaite que son œuvre soit modifiée ou pas, s'il souhaite que son œuvre soit commercialisée par d'autres que lui. Je pense que ce sont des prérogatives qui sont importantes et qui doivent rester aux créateurs. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'adapter le schéma de la vente ou de la diffusion promotionnelle pour certains titres, par exemple. Parce qu'on peut avoir des artistes qui sont prêts à mettre librement sur le réseau certains titres à titre promotionnel, mais pas tout. C'est leur choix, il faut le respecter. Maintenant, il faut convaincre l'ensemble des artistes ou des acteurs classiques qui ne veulent rien mettre, que ce n'est pas leur intérêt. Je pense qu'il y a à un moment donné une prise de conscience qui va se faire, et pour ça, pour que cette prise de conscience se fasse, il faut et des outils, donc démontrer que des petits acteurs peuvent avoir accès au marché, on dirait, du peer-to-peer, de la musique en ligne ou du jeu vidéo, mais qu'également, je dirais que leur choix soit respecté a posteriori par les utilisateurs.
Oui, moi, donc, clairement, ce que j'évoquais ici, c'était une piste possible. Donc, justement, dans le respect du choix de l'auteur qui peut très bien faire ce choix-là. Je ne pense pas, tout comme toi, qu'on arrivera à déterminer un modèle unique pour la diffusion des œuvres numériques en ligne, ne serait-ce que parce que ça n'a pas forcément de sens. Cependant, il y aura certaines réalités qu'il faudra prendre en compte, savoir est-ce qu'on peut vraiment limiter les possibilités de copie dans le cadre privé, dans le cadre non commercial. Technologiquement, aujourd'hui, c'est très difficile. Et je pense qu'il faudra bien nous adapter à ça.
Là où il y a un intérêt, enfin, justement, c'est que quand on parle d'économie de coûts, c'est le fait que la création numérique et la distribution numérique enlèvent beaucoup de coûts et permettent justement d'être plus abordable. C'est-à-dire qu'en supprimant un certain nombre d'acteurs, c'est vrai qu'on peut arriver à une qualité de production pour un coût moindre. C'est vrai qu'en ne vendant pas, par exemple, en passant par tout le processus classique de marketing, enfin, on va dire grand marketing, plus distribution par CD, puisque bon, c'est vrai que le support physique, son traitement, sa manutention, etc., c'est un coût qui est quand même très important. Dans le jeu vidéo, il y a quand même 60% du coût, enfin du prix de vente qui est consacré à ça. Et c'est vrai qu'en supprimant un certain nombre d'intermédiaires, on arrive quand même à retomber plus facilement sur nos pattes. Parce que justement, on a des économies qui sont assez importantes.
Très bien, merci. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la partie discussion avec la salle et nos deux intervenants. Souvent, dans ce genre de rendez-vous, dans ce genre de colloque, on promet un débat à la fin que l'on doit toujours raccourcir du fait du débordement de toutes les interventions. Ça, on le souhaite qu'on ait une bonne heure ensemble ce matin pour échanger sur ces questions. Je vois une première question là-bas.
Oui, c'est pas une question. C'est par rapport à l'intervention de Tariq. Dernièrement, je suis passé devant une... Ah oui, je vais me présenter. Excusez-moi. Pascal Lambert, anciennement développeur au chômage, ayant beaucoup d'idées. Donc voilà, entre autres, j'ai une idée. Donc dernièrement, je suis passé devant le local, je sais plus si c'était Force Ouvrière ou autre chose, enfin c'est pas grave. Et il disait, il faut refuser le monde de la finance. Et ben c'est cette façon de voir les choses que je trouve ridicule. On va pas dire aux gens de la finance, arrêtez de nous pomper du fric. Ils le feront jamais. On n'aura aucun contrôle sur eux. Ce qu'il faut, c'est être dynamique et créer une chose. Moi, ce que je veux, c'est par exemple, prenons cet exemple de la finance. Si on veut créer un nouveau monde, il faut créer une nouvelle dynamique. Pas attendre qu'ils nous fassent ce qu'on veut, créer. Donc je pense que pour le peer-to-peer, pour toutes ces choses-là, pour le numérique, il faut faire pareil. Il faut créer une nouvelle dynamique. Il faut pas imposer nos choix, mais créer de nouveaux modèles, de modèles de société, de modèles de distribution et autres. Et les majors, on s'en fout de ce qu'ils font. On n'en a rien à suivre de ce qu'ils font. On crée notre nouveau monde, et s'ils ne rentrent pas dans notre monde, ils disparaîtront, c'est tout. Moi, à mon avis, c'est la seule solution. À mon avis, ce qu'il faut, c'est créer de nouveaux modèles dynamiques, de nouveaux modèles économiques, un nouveau monde, et puis... Si les majors ne veulent pas suivre, tant pis pour eux. Voilà, c'est ce que je voulais proposer.
Très bien, merci Pascal. Madame.
Oui, bonjour. Laure Quéré. Je suis consultante en ingénierie culturelle et spécialisée en droit d'auteur. Et visiblement, il y a beaucoup de questionnements. Et je vais essayer de lancer quelques pistes de réflexion. Pour avoir moi-même rédigé un rapport pour la francophonie sur le droit d'auteur. Pour ma part, déjà, il y a un phénomène qui est mondial. Donc déjà, nous le savons tous, la société évolue beaucoup plus vite que le droit. Donc c'est d'abord au droit de s'adapter. Il faut savoir qu'il y a des zones de non-droit. Par exemple, la Chine, a développé toute une économie basé sur la contrefaçon, parce qu'il n'y a pas de volonté politique de la part du gouvernement chinois de faire cesser cette économie-là. Donc, d'autre part, le monde est divisé en deux, pratiquement. Il y a le droit d'auteur anglo-saxon, le droit d'auteur continental, on va dire européen. Et puis, il y a toutes ces zones de non-droit, je pense notamment à l'Afrique, je pense à l'Amérique du Sud, qui essaye de s'adapter, qui, notamment l'Afrique, essaye de reprendre des choses du droit d'auteur français. Le Brésil a créé sa propre législation en 1994, et eux nous ont apporté un élément intéressant, parce que, étant géographiquement et économiquement pris entre deux feux, entre les États-Unis et l'Europe, ont créé un droit d'auteur en fait qui est à mi-chemin entre les deux. Ce qui permet au niveau des échanges commerciaux d'avoir une plus grande fluidité, de commercer avec les États-Unis et avec l'Europe. L'Internet, il ne faut pas l'oublier, est avant tout, est une machine qui permet la fluidité, le transport de marchandises, qui sont des marchandises intellectuelles. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Il faut prendre en considération aussi la peur des créatifs, la peur d'être constamment copié. Alors, soit on crée, comme en commerce international, on crée un droit d'auteur international, et à ce moment-là, comme on l'a justement dit et écrit, il faut un certain courage, parce que, d'une part, c'est très long, il faut que tous les gouvernements le veuillent, que les syndicats d'auteurs, de producteurs également se mettent au travail. Ça peut être assez long, mais bon, c'est tout à fait possible. Et puis, si ça n'était pas fait, il y a effectivement le risque, c'est ma vision, hein, on n'est pas obligé de la partager, mais ça peut aussi Jusqu'à présent, la valeur d'une œuvre était avant tout basée sur la communication, c'est-à-dire plus on communiquait sur une œuvre, plus elle était connue du grand public et plus elle prenait de la valeur. Mais compte tenu du phénomène Internet, il est possible que la communication sur les œuvres se modifie et qu'on cultive à ce moment-là la rareté. Et qu'à ce moment-là, l'œuvre devienne quelque chose qui moins elle est connue, plus elle est connue d'un cercle fermé de personnes, plus elle prend de la valeur. Et à ce moment-là, c'est l'effet inverse de ce que l'on veut, c'est-à-dire l'ouverture, la culture pour tous, etc. Par rapport, juste pour terminer, parce que je pense que j'ai à peu près fait le tour d'horizon de la problématique, oui, il y a aussi le problème de la copie privée. Il faut savoir que auparavant, il y avait les cassettes. On pouvait dupliquer des cassettes. Ça n'a jamais été un problème. On ne voit pas pourquoi aujourd'hui l'Internet est un problème. L'Internet est un problème parce que ça se fait à grande échelle. Rien n'interdit de dupliquer des œuvres, à condition que ça reste dans un domaine très restreint, dans le domaine de la famille. Or, la copie privée, elle est définie par le droit d'auteur déjà. Il faut que ça soit... C'est précisément défini. Alors, il faut que les gens aillent lire les textes. Alors, et évidemment, là encore, c'est encore une question d'éducation. À l'école, qu'on explique aux gens que la copie privée, ça doit rester dans le strict cercle de la famille. Le problème du peer-to-peer, de l'échange, c'est que là, c'est diffusé à un niveau mondial. Alors, il s'agit juste de mettre en place des mécanismes de rémunération, comme on l'a fait pour le CD qui se duplique, comme pour la cassette. Il y a une taxe qui est payée à l'achat par l'acheteur. Il paye la taxe et donc ça lui donne le droit de dupliquer. Mais ça doit rester dans un cercle très restreint.
Très bien, je te remercie. Oui, je suis assez d'accord avec vous sur le fait que le problème ne pourra être réglé qu'à une échelle internationale. D'ailleurs, les législations qu'on doit transposer aujourd'hui sont directement issues du traité OMPI de 1996. On voit bien jusqu'où il faudra remonter pour essayer d'élaborer quelque chose qui soit valable à grande échelle. Je pense qu'il y a d'autant plus urgence sur ce sujet-là que certains pays, comme les États-Unis, sont en train de signer un certain nombre d'accords bilatéraux avec des pays qui ne sont, par exemple, pas aussi forts que ceux de l'Union européenne ou la Chine. On a eu récemment un accord bipartite avec le Maroc qui fait la part belle au copyright américain. Et on échange d'assez peu de choses pour le Maroc. Donc je pense qu'effectivement, il sera urgent pour nous d'affirmer certains principes et donc certains droits, de ne plus être dans la seule exception qui, certes, tu me diras, en tant que juriste, fait partie intégrante du droit et est très importante, mais d'affirmer un certain nombre de principes, et ça au niveau international. Tariq ?
Je voulais juste reprendre...
Excusez-moi, je peux juste terminer pour te répondre. Il faut faire attention, il ne faut pas confondre ce que décide l'OMPI par rapport à la création d'un véritable droit international. Parce que justement, je souhaite qu'on prenne conscience de l'importance du droit d'auteur continental pour la protection et la diversité culturelle. Parce qu'il fait une part beaucoup plus forte, il donne un droit moral à l'artiste, au créateur, qui n'existe pas, c'est une notion qui n'existe pas en droit anglo-saxon. Donc le danger justement, c'est que les règles de l'OMPI deviennent des règles prédominantes, et justement c'est d'ailleurs là-dessus que je travaille depuis un an, c'est que on s'aperçoit que les États-Unis sont très actifs en ce domaine. Ils font des accords effectivement bilatéraux avec les pays, avec tous les pays qui n'ont pas de législation, pour imposer leur législation. Parce qu'à ce moment-là, le producteur en droit anglo-saxon a un pouvoir très très important, Et du coup, comme il n'y a pas de droit moral de l'artiste, le producteur, il fait ce qu'il veut, il modifie comme il veut, et donc il y a une uniformisation des créations. Et alors, encore une fois, on est aux antipodes de ce que l'on veut, c'est-à-dire l'ouverture, la non-uniformisation. C'est l'homogénéité de la culture, et voilà.
D'accord. Donc, avant de laisser Tariq apporter quelques éléments, je dirais, mais est-ce que tu serais d'accord avec la proposition qu'a fait Michel Müller, qui était le rapporteur d'un rapport présenté par le groupe du cadre de vie au Conseil économique et social, qui propose la création d'une agence des Nations Unies dédiée à la société de la formation pour traiter notamment de ces choses-là, et pas uniquement au travers d'une agence qui traite du commerce.
Oui, absolument. Oui,
oui, je voulais juste apporter quelques petits points. Tout d'abord, on parle d'échanges non commerciaux. Moi, je ne sais pas qui a vu que les échanges n'étaient pas commerciaux. Tout le monde paye sa connexion ADSL. Je paye 30 euros par mois. Donc, je paye notamment parce que je sais que je vais faire des échanges. Donc ces échanges sont commerciaux par essence. Aujourd'hui, si l'Internet était gratuit, ces échanges seraient non commerciaux. C'est vrai que pour les fournisseurs d'accès, il va falloir comprendre que le peer-to-peer est un des services qu'ils proposent. Et il va falloir trouver des solutions économiques pour le compenser. Et j'aime pas ce terme d'ailleurs, compenser, pour le rémunérer. Enfin, une autre chose, c'est que j'ai entendu parler de ce monde merveilleux où les majors n'existeront plus. Ça me fait aussi un peu rire. J'essaye maintenant on parlait de débat simpliste tout à l'heure. Je trouve que quand on connaît la réalité économique, une major, c'est quoi? C'est une société qui a du capital et qui est capable de faire des investissements massifs pour distribuer massivement des produits. Elle a eu un rôle social important puisqu'elle a démocratisé culture, qui était une culture avant restreinte. C'est une culture de masse. Le problème ne vient pas tellement des majors et de sa capacité à développer en masse. C'est très dur de dire qu'on va prendre un artiste, qu'on va le... Ok, le processus commercial de fabrication de l'artiste peut être discutable, mais de dire qu'on va le vendre à des millions de personnes en quelques mois, moi personnellement, je ne sais pas faire. Le vrai problème, c'est qu'en face de ça, on a une industrie indépendante qui est très vive, qui est très forte, qui est très organisée aux États-Unis, qui est très vive, qui est très forte, qui est très organisée en Angleterre et qui est quasiment inerte en France, qui ne sait pas où elle va. L'autre chose, c'est que les solutions, elles sont à court terme aujourd'hui. Alors effectivement, réformer le droit, imaginer des solutions dans un monde meilleur dans des années, c'est bien. Mais c'est aujourd'hui, parce que la première des choses, c'est qu'on est dans une compétition économique également au niveau culturel. Et ce qui est dangereux, ce que personne ne semble comprendre, c'est que l'ensemble des PME, des artisans de la culture sont en train de mourir. C'est pas à cause de la copie, c'est lié au fait qu'ils n'ont pas su s'adapter à une transition numérique, qu'on ne les aide pas. De toute façon, on a une culture de défiance vis-à-vis de la technologie qui fait qu'on n'est pas ouvert sur ces techniques. Et aujourd'hui, je dirais que s'il y a une bonne action à faire, ce n'est pas de fustiger contre les majors, c'est d'aller voir un label indépendant qu'on connaît et lui dire « Apprenez à utiliser l'Internet, mettez une partie de votre catalogue en ligne, commencez à développer des accords, mettez-vous en place, créez vos systèmes de distribution. » Aujourd'hui, un label peut vendre des disques sans les fabriquer. Il suffit d'aller sur des sites et les disques sont générés à la demande. Ensuite, vous utilisez le peer-to-peer et les web radios comme promotion. Et enfin, et c'était un peu l'objet de ma contribution, je pense qu'il est très important qu'on ait un domaine public fort sur l'Internet, parce que je fais partie des gens qui pensent qu'un service public dans les médias forts implique, et c'est une notion de compétitivité, que le service privé va devoir s'adapter. Et donc, si on élève la culture, le niveau moyen de la culture sur l'Internet, je ne sais pas, mais il y a des trésors de films des années 20 qui sont en train de sortir en ligne, ils sont magnifiques, les jeunes n'ont jamais vu. Il y a aussi un système qui fait qu'on a une amnésie culturelle. On nous a confisqué l'accès à notre culture télévisuelle. Tout ce qui a fait les 30 dernières années on n'y a pas accès. Donc il y a également le fait que si on augmente et si on met en accès le domaine public, ça ce sont des choses sur lesquelles on peut agir. Avec les contrats privés des majors, on ne peut pas agir dessus. Ce sont des contrats qui ont été signés. Il y a d'autres moyens qui pourront exister pour permettre d'ouvrir des brèches. Il va falloir convaincre, ce sera un peu plus compliqué. Mais en tout cas, sur les indépendants et sur le domaine public, ce sont deux points sur lesquels on peut avancer assez vite. Voilà, c'était juste.
Eh bien, merci, Tariq. Monsieur, derrière l'or, a demandé la parole.
Jean-Vincent Adami, mais c'est juste sur l'ONPI, pour dire que je crois vraiment qu'il y a peu à attendre de l'ONPI par rapport à telle ou telle réforme progressiste, je dirais, en ce moment. Et c'est vrai notamment parce que le budget de l'ONPI est assuré seulement à hauteur de 10% par les États membres et à hauteur de 90% par les services et notamment les dépôts de brevets et de marques. Donc c'est une organisation, surtout aujourd'hui, on l'a vu, quand on a participé aux travaux de l'ONPI au cours des 10 dernières années, on a bien vu l'évolution de cette organisation. Ça ne va certainement pas dans le sens d'une ouverture vers les idées qui sont, je pense, dominantes dans cette salle. C'est vraiment dans le sens contraire. Donc, il faut réfléchir d'une part au fait de trouver des systèmes au plan national qui soient compatibles avec les traités de l'ONPI 96, qui sont entre parenthèses pas simples à interpréter et parfois piégeux. Et deuxièmement, s'il faut se situer sur tel ou tel sujet à un niveau international, peut-être trouver d'autres lieux, effectivement, d'élaboration, de conception d'instruments internationaux, mais pas l'ONPI. Enfin, c'est mon point de vue.
Si, c'est clair que dans ma question tout à l'heure, je parlais de l'ONPI, parce que c'est clairement le lieu qui a impulsé les réformes, enfin, les différents textes que nous transposons aujourd'hui. Ensuite, je pense qu'effectivement, ce qu'il nous faut, c'est sur le long terme, disposer d'un lieu d'élaboration où nous pourrons impulser des législations progressistes. Comme l'a dit Tariq, on ne peut pas vivre que dans le long terme. Par contre, il nous faudra donc avoir une stratégie mixte avec du long, du moyen, du court terme, même pour certains acteurs du secteur culturel qui ont besoin aujourd'hui qu'on les aide à accompagner toutes ces évolutions. Monsieur a demandé la parole.
Oui, Jean-Marc Loret, je travaille au ministère de la Culture. Mais pas du tout sur ces sujets-là. Je ne suis pas du tout un technicien du sujet. Je voudrais reposer quelques questions basiques. Vous demandez d'approfondir la réflexion sur les modalités de rémunération des auteurs. Parce que, à vous écouter, j'ai l'impression que vous avez décrit une situation quasi aporétique où les deux termes de l'alternative seraient le développement du peer-to-peer, mais avec donc comme évidemment, conséquence, la nécessité de mettre en place un dispositif de contrôle et de répression, mais vous avez dit tout à l'heure que ces dispositifs se révèlent inefficaces, ou alors, deuxième terme de l'alternative, le développement du libre-échange, du libre-accès, mais bon, il faut être sérieux, éduquer les jeunes, éduquer les enfants, bien sûr, tout à fait, mais enfin, ça c'est vieux comme le monde, je ne vois pas quelle plus-value chacun d'entre nous pourrait trouver à payer, hein, un produit s'il peut y avoir accès gratuitement. Donc le développement du libre-échange, du libre-accès, soit, mais avec comme conséquence l'absence totale évidemment de rémunération des auteurs et le tarissement de la production à terme. Alors, je pose peut-être la question de façon basique et naïve, mais j'aimerais qu'on puisse en sortir, enfin, bon, voilà.
D'accord, très bien. Moi, je serais tenté, enfin, avant de laisser, je pense que Julien va apporter quelques mots, de dire que pour moi, le peer-to-peer, c'est pas une alternative, c'est un fait. À partir de là, il nous faut vivre avec lui. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il faut créer de nouvelles logiques pour qui permettent de rémunérer les auteurs, mais essayer d'interdire le peer-to-peer revient à nous demander d'abandonner l'Internet aujourd'hui. Parce que c'est l'essence même de l'Internet. Je suis tout à fait d'accord avec vos préoccupations.
Je n'ai pas du tout parlé d'interdire le peer-to-peer.
Je ne vous fais pas ce procès-là, mais quand on parle de deux alternatives, c'est bien qu'il y a un choix à faire quelque part. Donc, pour moi, il n'y a pas deux alternatives, il n'y a pas un choix à faire contre un autre, mais il y a une réalité qui est le peer-to-peer qu'il faut prendre en compte. Évidemment, et tout comme vous, je souhaite qu'on le fasse d'une telle manière que non seulement les citoyens, les consommateurs puissent accéder à un vaste catalogue d'œuvres, mais également que la situation soit telle que les acteurs de la création puissent continuer à créer, du moins pour ce qu'ils souhaitent, en étant rémunérés pour cela.
Enfin, pour Julien. appelé le directeur général de l'ADEMI, et il y a un élément de réponse quand même qui n'est peut-être pas assez qui était dit clairement lorsque notamment l'ADEMI a pris position justement sur cette notion d'une redevance sur les abonnements aux fournisseurs d'accès destinés à rémunérer les ayants droit. Ces ayants droit, ce sont les auteurs, les interprètes et les producteurs. Donc, c'est pas la totalité de la réponse, mais il faut bien avoir conscience que quand on parle de rémunérer le peer-to-peer, il y a une part, aujourd'hui, dans le droit existant, en France, elle est d'un tiers ou un quart de la totalité des redevances de copie privée.
Et comment elle est répartie ensuite ?
Et elle est répartie par les sociétés. C'est l'autre chose qui est importante, c'est qu'une société comme l'ADEMI est capable, par l'analyse, je prends par exemple la copie privée audiovisuelle, l'ADEMI suit par médiamétrie, grâce aux statistiques de médiamétrie, on connaît les taux de copie des différents films qui sont passés sur les principales chaînes et des différentes émissions, on connaît les artistes qui étaient dans ces films ou dans ces émissions, et on est capable ensuite donc de répartir en proportion des taux de copie qui ont été constatés, des copies par les magnétoscopes sur les émissions de télévision. Et l'idée de la rémunération du peer-to-peer, c'est bien l'idée d'appliquer la gestion collective d'une manière analogue en identifiant la part des différents, d'abord des différents genres, des différents types de contenus, et puis ensuite des différentes productions des différents artistes pour donner à chacun une part proportionnelle à sa diffusion et bien entendu aussi aux producteurs. Mais ce n'est pas la totalité de la réponse à la question très importante que vous posez, qui est comment on s'assure d'une survie des producteurs dans un monde où le peer-to-peer est légalisé, mais ça en est une partie.
Julien, une autre précision, c'est au niveau justement de... je disais qu'il y avait une absence de solution technique répressive, ce qui n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen d'empêcher les gens d'échanger des fichiers. Après, la solution qui est proposée, c'est de pouvoir indexer. Parce qu'en fait, il faut l'assentiment des utilisateurs. Et pour ça, si on propose juste que quand ils lisent un MP3, on puisse recenser le fait qu'ils le lisent, savoir quel est l'artiste, savoir quel est le titre, etc., à ce moment-là, une rémunération est possible. Parce qu'on sait ce qui a été écouté, on connaît les quantités. Ensuite, on a un fonds qui est, prix de prélèvement des fournisseurs d'accès Internet, et sur lequel on peut redistribuer en fonction des écoutes faites, parce que justement on a une base statistique très fiable, puisque les utilisateurs, eux, ça leur coûte rien s'ils savent qu'ils peuvent écouter que grâce à leur rétribution, grâce à leur abonnement internet, ils rétribuent les auteurs, ils vont pas empêcher les statistiques, parce que pour eux, il n'y a rien de répressif derrière. Donc c'est comme ça qu'on peut avoir vraiment une base fiable et une solution technique existante pour pouvoir avoir une rétribution d'autant plus juste qu'on connaîtra les écoutes de chacun.
Pascal Lambert, développeur. Je suis fondamentalement optimiste depuis quelques temps. Ça vaut le coup. Et j'ai plusieurs remarques à faire. Donc la dame a dit que pourra y avoir une économie sur le numérique de la rareté. Ça ne marchera jamais. Parce que les gens ne voudront pas. On trouvera toujours les solutions. Au niveau mondial, l'OMPI ne fait pas l'effort. On trouvera une solution pour se passer de l'OMPI, j'en suis sûr. Et puis, effectivement, comme ils disent, on trouvera de toute façon des solutions. On trouvera des solutions pour rémunérer les gens. Moi, je suis sûr qu'on trouvera des solutions, forcément. Voilà. Encore une remarque. On peut être optimiste parce que, effectivement, on a des acteurs majeurs qui nous suivent. Regardez IBM, en 2003, ils ont mis 1 milliard sur le libre. Hein, et puis, Ils ont dernièrement décidé de passer tout leur poste bureautique en logiciel libre en 2 ans. Quoi d'autre? Il y a Munich qui passe au libre et Paris qui fait les choses, donc faut pas être pessimiste.
D'accord, très bien. Tariq, et puis monsieur.
Il y a quand même une petite différence entre le monde du logiciel libre et le monde de la musique. Pour moi, la principale différence, c'est que le monde du libre a été porté par des gens qui étaient géniaux, très forts, meilleurs que tout le monde. Ça fait presque 20 ans que je m'intéresse à ces logiciels, donc j'ai été éduqué sur ces logiciels. Il est évident que chaque développeur qui sort d'une école, qui lit le code de gens comme Stallman, de Cox et autres, ont envie d'adhérer. Le problème de dire que la même chose existerait dans la musique, c'est pas encore vrai, parce qu'il manque les success stories. Quand les meilleurs artistes, les meilleurs d'entre nous pourront diront ouvertement, grâce au peer-to-peer, grâce à ces nouvelles méthodes de diffusion et de communication, je réussis, les autres les suivront obligatoirement. Et je voulais juste revenir sur les modèles économiques d'artistes. Enfin, je me rappelle souvent, mais il faut vraiment voir, analyser ce que fait le groupe Fish aux États-Unis. Ils sont milliardaires. Ils font des millions de dollars tous les ans grâce à l'échange et la copie. Le modèle, il est simple, c'est les concerts. Tout est téléchargeable. Dès qu'il y a un concert, vous pouvez l'acheter en FLAC, donc ou l'avoir gratuitement en MP3. Donc vous avez la version qualité CD, ça coûte 10 dollars. Ils en vendent des milliers. Ils ont des dizaines de milliers de personnes qui viennent à leur concert à chaque fois. D'ailleurs, ils ont décidé récemment d'arrêter. Ça marchait très bien. Et c'est un exemple que aujourd'hui certains artistes devraient suivre. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est pas que la rémunération de peer-to-peer soit l'unique source de revenus, c'est que c'est une des sources. Et l'enjeu politique et économique, c'est que cette source de revenus soit une sorte de matelas de sécurité suffisant pour que les gens puissent passer dans un nouveau mode ultra concurrentiel, qui est le monde du peer-to-peer et de l'Internet. Aujourd'hui, quand vous existez sur le peer-to-peer, pour exister vraiment et avoir plus de 1000 personnes qui vous connaissent, il faut quand même une certaine expertise et une certaine volonté. Donc ce soit un matelas de sécurité pour évoluer vers d'autres modèles de transition. Donc moi, je ne crois pas à l'un ou l'autre, je crois à l'un et l'autre et l'autre et l'autre. Et comme le cinéma a plusieurs exploitations, la musique est en train d'apprendre à avoir plusieurs exploitations. Alors, une exploitation première qui est l'achat d'un CD. Moi, j'achète typiquement, notamment dans les films, je suis un fou de film, tous les studios indépendants qui encodent des films que personne n'a voulu faire, donc les studios anglais, allemands, j'achète systématiquement parce que je sais que c'est un vrai travail patrimonial. C'est le même cas pour les CD qu'on achète. On achète quelques CD et on consommera le reste. C'est vrai que le peer-to-peer a entraîné une surconsommation musicale et que cette surconsommation musicale va avoir des effets bénéfiques. Cette surconsommation musicale n'est pas encore bien comprise par les labels et les acteurs de la musique industrielle ou non. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à rééquilibrer ça. C'est vrai qu'une des forces de système alternatif de rémunération, ce serait de permettre que la transition ne soit pas brutale. Parce que du jour au lendemain, les majors feront ce qu'a fait Microsoft en 94. Je ne veux pas aller sur Internet, 95. Toute la stratégie est sur Internet. Et ça a pris un mémo. Et demain, si Universal ou si des acteurs comme ça veulent investir les réseaux, ça prendra un mémo. C'est ce qui s'est passé pour les services de musique en ligne. Le patron de Warner est venu et est arrivé, a dit « Nous sommes sur iTunes ». C'est tout. Il est parti, ils sont allés sur iTunes. Donc ça sera aussi rapide. Il y aura des moyens. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les 20% qui n'ont pas forcément les moyens, qui n'ont pas les moyens de se payer des ordinateurs up-to-date, qui n'ont pas le temps d'aller surfer pour voir ce que les gens pensent de leurs artistes sur les forums de discussion, ces gens-là apprennent et en fassent partie. Et c'est vrai que avoir un peu d'argent en plus, ce petit matelas de sécurité, ça sera une bonne chose.
Voilà. Merci, Tariq.
Monsieur
Patrick Sins, de Ethica. Je voudrais dire d'une part que le revenu qui vient de la vente d'un support physique, de toute façon, est menacé, parce que dans un très court délai, on pourra avoir un support physique où quasiment tout ce qui existe dans une année est disponible. Il y aura forcément des gens qui trouveront que c'est intéressant de pirater, peer-to-peer ou pas peer-to-peer. Par contre, si on pense par exemple au film Star Wars, c'est un film qui est intéressant, pas forcément en tant que film, c'est une question de goût, mais c'est le premier film qui a vécu pour une large part de la marchandisation des petites figurines. Et c'est assez récent finalement. Les sources de revenus d'un bien culturel, elles peuvent être le spectacle vivant, la publicité qu'on voit sur une télé majeure et qu'on voit parce qu'on a voulu voir le spectacle avant ou après, marchandises dérivées. Donc en fait, il y a une source de revenus qui de toute façon est condamnée, à moins de définir un état policier global, pour réellement regarder à tout moment ce que les gens font. On ne peut pas espérer que ça continue. Je crois aussi qu'il faut se méfier un peu de l'idée de dire on va générer une espèce de pool financier qu'on va partager entre les artistes. Parce que finalement, faire de la médiamétrie, c'est bien tant qu'il n'y a que quelques chaînes de télé. Quand il y a des milliers de sources de diffusion, et quand on sait qu'en plus beaucoup d'artistes indépendants vont plus facilement diffuser par un réseau peer-to-peer ou une chaîne satellite confidentielle que par une chaîne majeure. Donc on a toute chance d'être oublié de la médiamétrie. On sait que ça fonctionnera pas forcément de la manière dont on le veut. Il est probable qu'il serait plus important d'aider, par exemple, au travers de nouveaux médias, les sociétés indépendantes à se structurer et à présenter leur contenu. Je pense qu'il est intéressant de suivre, par exemple, l'expérience de Warp Music en Angleterre, qui est un studio indépendant, enfin un producteur indépendant, qui a mis tout son catalogue en vente en ligne, payante, mais librement duplicable. Donc, pour faire le parallèle entre la musique libre et le libre, si IBM a mis $1 milliard dans le logiciel libre, c'est parce qu'en fait, c'est une manière de marchandiser son hardware. IBM vend des machines. C'est pas par bonté d'âme. Donc, on est dans une situation où le peer-to-peer permet en fait de fondamentalement transformer chaque acteur dans une espèce de voteur. Ce que le peer-to-peer fait vraiment, c'est faire que quand vous rentrez dans le réseau, vous dites une partie de l'argent que je dépense pour me connecter sert à envoyer de la bande passante à disposition du reste. Alors ce qui est un peu dangereux aussi, c'est que ça a tendance à favoriser des médias déjà dominants. Le peer-to-peer risque également d'être la meilleure et la pire des choses. Ça risque aussi d'être quelque chose qui diffuse beaucoup plus facilement les données des majors que justement ce qu'on voudrait faire, diffuser de une culture plus générale. Enfin, il y a un trend inquiétant sur l'Internet qui est que quelques portails capturent une grande partie de du temps de connexion de chacun. Il n'est pas certain qu'on gagne au change en remplaçant les majors par même Yahoo et Google.
Merci. Manuel ?
En fait, ma question, c'était sur... C'est bon ? Oui, pardon. Ma question est portée sur un des éléments de l'intervention de Tariq. Donc, c'était sur les. Tu avais parlé des. Enfin, en fait, grosso modo, des problèmes de masse critique dans les réseaux peer-to-peer. Tu parlais des nano-réseaux. Et je voulais savoir si tu pouvais approfondir cette notion. Et puis, je pense que ça concerne aussi un peu Julien. Parce que dans les jeux vidéo aussi, il y a des problèmes de masse critique. On parle beaucoup des jeux massivement utilisateurs, etc. Oui, intervenir là-dessus.
Pour vous donner un petit exemple de la révolution qui est en train de se passer au niveau du nano-publishing, donc les blogs, terme un peu hip de la côte ouest pour parler d'un phénomène que tout le monde connaît, c'est intéressant de voir ce qui s'est passé pour aux États-Unis notamment pour la couverture de l'élection présidentielle américaine. Vous savez que la plupart des gros médias sont empêtrés dans les scandales. Il y a un très bon film qui va sortir notamment sur Fox, Outfoxed, qui sera d'ailleurs en Creative Commons, les interviews. On s'est rendu compte que les blogs, notamment dans certains domaines, politique, technologie, étaient en train de devenir des véritables outils de concentration. Et ce qui est très intéressant, c'est que les systèmes de peer-to-peer, puisque le peer-to-peer existe également dans la presse avec le trackback, le fait que vous pouvez lire le blog qui vous intéresse avec des informations provenant d'autres sources. Et en fait, on a créé en fait une agrégation de sources qui font que finalement, quel que soit l'endroit où vous êtes sur Internet, vous pouvez lire la plupart des news venant d'autres services. Ben, l'enjeu aujourd'hui dans la musique, c'est un peu la même chose. Vous avez un phénomène qui se développe énormément aux États-Unis, c'est les MP3 blogs. Ce sont des gens qui vous disent « Venez chez moi tous les jours, il y a de la musique légale, gratuite à télécharger, parce que la plupart des labels mettent des MP3 en téléchargement. » Massive Attack avait mis, par exemple, au Japon des morceaux exclusifs de son album. Donc, quand on va un peu partout sur la planète, on a accès à des millions de contenus. Parce qu'il existe, et c'est très important, déjà des millions de contenus légaux en MP3 téléchargeables gratuitement, promotionnels. De très bonne musique. La plupart du temps, on n'en parle jamais. Puisque pour la presse, les sites de téléchargement légaux, c'est Virgin, Fnac, Apple et les autres. Et donc, cette idée, c'est de dire que si ce phénomène des blogs, ce phénomène de la culture ouverte, donc du fait que les gens acceptent de mettre en place des licences qui vont permettre la diffusion sur Internet de certains ou de la totalité, c'est leur choix, des morceaux. Et quand on voit que l'une des tendances aussi très importantes, c'est les réseaux sociaux, donc le fait que les gens maintenant utilisent Internet pour se rencontrer, pour du dating, pour plein de choses, la mise en relation de tout ça laisse montrer que très rapidement, ça commence à arriver aux États-Unis avec des sites comme Torrentocracy, des choses comme ça, on disposera d'outils qui permettent à un artiste qui veut se développer sur Internet de s'appuyer sur sa communauté. Donc des gens qui vont avoir les outils, les matériaux, c'est-à-dire les morceaux, l'ensemble des éléments marketing, pour faire le marketing à la place de cette personne. Et cette personne va grandir sur le réseau en fonction de son influence et va se servir des différents outils existants, que ce soit les blogs, les blogs MP3, les portails, les sites de peer-to-peer, puisque le peer-to-peer fait que ce sont les gens, vos fans, qui hébergent vos œuvres promotionnelles et pas vous. Vous n'avez pas besoin d'acheter des serveurs importants. Donc on est au tout début de tout ça, et c'est vrai qu'on a deux exemples très très forts, c'est la politique et la musique, où on sent que ces réseaux sociaux sont en train de se créer, on a des groupes d'intérêt, des gens qui sont capables d'être très mobiles. Et ça, c'est une des choses qu'il va falloir qu'on apprenne à nos labels indépendants, parce que aujourd'hui, ce qui faisait la vraie force d'un label indépendant, c'était sa proximité d'un public. C'est-à-dire des labels indépendants qui sont mythiques, vous voyez, de Warp, moi qui étais un fan de musique électronique, ça a été cette exigence permanente de qualité et surtout une cible de gens autour de ce label qui ont fait la promotion. J'ai parlé à un nombre incalculable de gens de ce label qui ensuite sont venus. Et donc on peut répliquer cette chose sur le réseau. Et ce qui va faire qu'un label indépendant peut réussir, c'est plus sa capacité à être indépendant financièrement d'une major, parce que c'est de moins en moins le cas, c'est sa capacité à se rallier au public. Et plus un label se rapproche de son public, donc plus il sera capable de créer des liens qu'on ne crée pas par la répression, évidemment, plus il sera capable de devenir important et indépendant, puisqu'à terme, on peut très bien imaginer, c'est déjà le cas pour certains labels, que les gens préachètent les disques avant qu'ils sortent. Je suis un fan de cet artiste, j'achète déjà. Donc on a des modèles économiques qui vont fonctionner pour les très petits, qui fonctionneront pour essentiellement pour les très petits et pour les très gros. Et un des enjeux, ça va être de s'assurer que les moyens, parce que c'est pour moi les vrais menacés, ce ne sont pas les majors et les très petits, qui de toute façon n'ont rien à craindre de peer-to-peer, mais les moyens, leur expliquer que justement ils disposent de nouveaux outils pour exister. Voilà, c'était un peu le...
Si notamment, je pense que tu parlais surtout des MMORPG en termes de masse critique. Donc pour revenir un petit peu sur les MMORPG, oui voilà, ça signifie Massive Multiplayer Role-Playing Game, donc ce sont Online Role-Playing Game, donc c'est des jeux de joueurs, enfin des jeux de rôle massivement multijoueurs, c'est-à-dire comme des jeux de rôle où un univers existe et est créé par les créateurs du jeu vidéo, dans lequel tous les joueurs vont venir se connecter, vont jouer un avatar et pourront parler d'humain à humain pour faire des quêtes ensemble, ou enfin vivre des aventures dans ce monde virtuel qui a été créé. Donc, dans ces MMORPG, il y a effectivement une notion de masse critique, puisque les personnes qui créent le jeu, elles ont des employés, elles ont par exemple, on va dire, une dizaine de personnes en roulement, et ces personnes-là, il faut les payer, puisque en fait, elles font constamment évoluer ce monde-là. C'est-à-dire qu'ils vont créer des nouvelles régions, ils vont créer, on va dire par exemple, de nouvelles armes, de nouvelles choses, pour essayer de faire vivre un petit peu cet univers. Et en fait, il y a un coût, et face à ça, je dirais, le seul moyen de gagner de l'argent pour eux, c'est d'avoir des abonnés. Et donc, il faut un nombre d'abonnés, puisque l'abonnement est fixé généralement à un prix qui est aux alentours de 10 €. Il faut avoir le nombre d'abonnés qui correspond à, 10 €. S'il faut 10 000 personnes, puisque vous avez 10 employés, etc. Il faut un équilibre entre le nombre de gens que vous avez dans votre monde et le nombre d'employés que vous avez pour créer le monde dans lequel ils vont évoluer. Donc après, vous pouvez proposer de nouveaux services, etc. Et donc le tout est d'arriver à trouver une balance entre éventuellement des sociétés comme Blizzard qui crée actuellement un MMORPG qui s'appelle World of Warcraft, où ils ont la possibilité, parce qu'ils savent que c'est un jeu qui va être vendu à des millions d'exemplaires, qu'ils ont la possibilité de créer des antennes, par exemple, dans chaque pays, où il y a des personnes qui sont payées pour travailler à plein temps dans cet univers, pour l'animer, pour créer des choses. Et donc ils ont des personnes qui s'emploient spécialement ça en France, en États-Unis, en Angleterre, etc., dans les pays principaux, parce que justement ils arrivent à un seuil de rentabilité suffisant qui leur permet de consacrer des gens à plein temps à faire vivre ces univers virtuels. Donc effectivement, la notion de masse critique, c'est toujours d'arriver à trouver un équilibre entre la création et l'enrichissement perpétuel de ces mondes, avec on va dire, le coût que ça implique. Ah, je...
la parole à France. Jean-Vincent.
Oui, merci. C'est une question, en fait, à Tariq, au sujet du nouveau service peer-to-peer lancé par M6. En fait, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Et plus particulièrement, je m'interroge sur le fait qu'il ait été dit que les fichiers avaient une durée de vie limitée. Est-ce que c'est vrai? Et par ailleurs, est-ce que c'est fiable?
Alors, concernant le site de M6, c'est intéressant parce qu'on a eu de longues discussions avec eux sur les... ces notions de communauté, c'est un essai. Donc déjà, techniquement, le terme exact, ce n'est pas du peer-to-peer, c'est ce qu'on appelle de la super distribution. Super distribution, c'est une vision d'un japonais il y a quelques années qui se disait on va être capable, et c'est ce que fait le jeu vidéo, et il faudrait peut-être... C'est vraiment très intéressant ce que tu dis, parce que la musique doit s'inspirer de ce que fait le monde logiciel à un moment ou à un autre. C'est l'idée qu'on peut diffuser très vite, très rapidement des contenus. Mais on doit les protéger. C'était sa vision. Aujourd'hui, on a la vision exactement inverse et on doit diffuser très vite, très rapidement des contenus sans les protéger. C'est BitTorrent qui est en train de devenir le standard de la diffusion dans tous les domaines. Alors, effectivement, l'idée du peer-to-peer de créer une communauté est très séduisante. Par contre, il y a effectivement le choix d'intégrer des mesures techniques de protection, donc d'utiliser des formats de Microsoft, avec une expiration des données, avec le fait que les contenus sont censés ne pas être copiables, puisqu'on sait qu'évidemment, tout contenu, qu'il soit protégé ou non, peut être copié par divers moyens. Donc, c'est la première expérience d'outil. Je pense que c'est très intéressant. Je pense que M6 est en train de comprendre qu'elle a besoin de créer un lien différent avec ses communautés. Notamment, je pense que la télé-réalité va de plus en plus utiliser le peer-to-peer, puisque jusqu'à maintenant, on avait une sorte de pacte qui était que comme ça intéresse le grand public, c'est à la télévision. Très rapidement, ça va intéresser des niches de gens. Ça n'a peut-être plus l'intérêt d'être à la télévision. Donc à partir de là, le peer-to-peer, avec les sessions qui seraient éditorialisées, peut devenir le relais de ce genre de choses. Donc c'est très intéressant. La BBC va faire la même chose, mais d'une version beaucoup plus, on va dire, sérieuse, puisque ce sont des contenus patrimoniaux. Je crois qu'ils sont en train d'encoder tous les discours de Churchill jusqu'à nos jours. Ce sera mis en Creative Commons. Et PBS, la chaîne éducative américaine, met régulièrement sur le réseau ses meilleures émissions, notamment les Computer Chronicles, que je vous conseille de voir, qui sont les meilleurs documentaires sur l'histoire de l'informatique, qui sont librement téléchargeables.
Monsieur ? Oui, Franck Beau, chercheur, consultant. Je voudrais juste effectivement compléter un peu ce que disait Julien sur les MMORPG et puis éventuellement faire une petite intervention provocatrice, ce sera à vous d'en juger, sur la question des modèles, effectivement, qui sont en train d'émerger. Sur les MMORPG, effectivement, ce qui est intéressant, c'est, il y a eu plusieurs générations déjà de MMORPG, de ce qu'on appelait les MUD, qui étaient des jeux textuels sur Internet, qui datent du début des années 80, une génération avec qui a utilisé les technologies graphiques. Donc ce sont des univers en ligne persistants qui évoluent, dans lesquels il y a effectivement des communautés assez importantes d'utilisateurs. Il peut y avoir des millions d'abonnés comme en Corée, en Europe c'est un petit peu moins. Mais en général on joue à plusieurs milliers sur des serveurs. Un des faits marquants de cet usage, qui est un usage qui nous vient tout droit du futur, et vous comprendrez un petit peu pourquoi, c'est qu'on commence à y voir émerger des modèles économiques qui n'ont strictement rien à voir avec... ce qu'on connaissait a priori aujourd'hui. Il y a une étude aux États-Unis d'un économiste qui s'appelle Edward Castronova qui effectivement a mesuré que sur un monde comme Noras, donc EverQuest, il y a une économie générée à l'intérieur de l'univers persistant par les joueurs qui est équivalent au 77e PNB du monde. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce ne sont pas simplement des services ou des produits qui sont vendus aux consommateurs, ce sont des écosystèmes dans lesquels une valeur est générée, qui peut être une valeur symbolique, une valeur d'achat, et éventuellement une valeur économique, et qui fait que les utilisateurs vont, à un moment donné, se mettre à revendre des personnages ou des objets sur des sites de vente aux enchères, et avec, effectivement, des cotes qui vont apparaître, et ça constitue des flux financiers qui sont produits à l'intérieur de ces... Que donner juste un exemple d'un univers pour elle qui effectivement va un petit peu plus loin encore, qui existe depuis quelques temps, qui s'appelle Second Life, qui est un univers persistant qui a la particularité de ne plus être uniquement un MMORPG se basant sur un univers d'heroic fantasy, mais qui se passe dans la vie réelle où chaque utilisateur a la possibilité d'être qui il veut. Sur cet univers, on propose aux joueurs d'acheter des parcelles de terrain. De les louer. Par exemple, je faisais hier une interview avec un joueur qui disait qu'il avait une amie qui louait $145 par mois une parcelle de terrain sur Second Life, qu'il louait. Alors là, on peut commencer à dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire un utilisateur, un joueur qui se met à louer un espace virtuel? Alors il me disait c'est comme sur la Lune, hein, finalement on peut louer des espaces sur la Lune, pourquoi pas de manière virtuelle. Ils sont pas fous les utilisateurs. En fait ce qui se passe derrière c'est que non seulement il y a l'émergence d'une valeur extrêmement forte pour l'utilisateur, à savoir qu'il y a une prise de possession de quelque chose, on revient sur des notions de propriété classique. Mais en plus, il y a possibilité de créer des micro-marchés, micro-économies, et donc il disait, là-dessus, on peut construire une galerie marchande, lui, il est DJ dans une boîte de nuit dans Second Life, il est aussi DJ dans la vie, il disait, effectivement, d'une part, dans cet univers, on a possibilité de faire ce qu'on ne peut pas faire dans la vie. Donc, je suis uniquement DJ dans cet univers virtuel, mais bon, je lui disais, mais tu as des horaires, etc. Il dit, j'y viens quand je veux, je viens par plaisir, hein, mais j'ai négocié avec le patron, alors qu'effectivement, les autres employés, effectivement, ils ont des horaires, enfin, ça, c'est les concernes. Qu'est-ce qu'ils font, ces employés qui travaillent dans des boîtes de nuit, dans des virtuels? Ils sont là, et puis ils reproduisent un certain nombre de schémas, etc. Ils perçoivent un salaire, hein, qui est en Linden Dollars. Et il y a un marché parallèle qui s'est mis en place où on peut transformer les Linden Dollars en dollars réels. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? Deux choses. D'une part, c'est qu'à l'intérieur de ces univers virtuels, entre guillemets, il y a l'apparition d'une valeur propre et qu'on peut interroger, savoir comment elle se constitue. Ce sont des mécanismes extrêmement complexes, hein, donc je ne vais pas rentrer dedans, mais ce sont des choses assez intéressantes. Et deuxièmement, la question, c'est que c'est l'utilisateur qui est en train d'intervenir sur le marché, entre guillemets. Et je crois que ça, c'est l'un des faits majeurs que peu de gens veulent voir depuis l'émergence d'Internet. C'est que la question de la production, on parle beaucoup de l'auteur et comment va-t-on rémunérer les auteurs, mais la question c'est comment va-t-on rémunérer les utilisateurs qui deviennent de plus en plus le prolétariat du web et qui passent effectivement parfois 10 heures à travailler pour une marque, à faire la promotion de telle ou telle marque, etc. J'avais vu une fois un reportage sur une chaîne de télévision où on faisait venir sur le thème du piratage une personne qui était un fan d'une star plus ou moins pop américaine et qui avait un site qui passait 10 heures par jour à animer la communauté de cette star, et il y avait autour de lui des juristes qui disaient mais vous rendez compte, vous utilisez des images sans droit, vous risquez la prison. Alors que cette personne travaille 10 heures par jour pour faire la promotion de cette star, et gratuitement. Là, il y a quelque chose qui ne va plus. C'est que quand on regarde sur Wanadoo, par exemple, je dis sur Wanadoo, pardon, sur n'importe quel fournisseur d'accès, les modérateurs de forums sont des utilisateurs qui passent des heures par jour à modérer gratuitement les choses. Alors, il y a eu des précédents, des moments où effectivement les quelques modérateurs se sont plus ou moins révoltés pour dire finalement on est un peu exploité. Donc il y a quelque chose qui est nouveau, qui est l'exploitation du consommateur. On parle beaucoup de cette différence entre les mass médias et Internet, comme quoi effectivement il serait devenu actif, mais il n'est pas simplement devenu actif, il produit des choses, il produit de lui-même, et puis aussi il fait la promotion de choses qui existent. Alors si maintenant on renverse sur le peer-to-peer, la question c'est: est-ce qu'il faut mettre en prison les utilisateurs parce qu'ils téléchargent des produits de majeur, ou est-ce qu'il faut demander aux utilisateurs finalement de créer un mouvement qui consisterait à demander aux majeurs de les rétribuer en échange de la promotion qu'ils font de leur marque? Ce qui n'est plus tout à fait la même question. Alors au milieu de tout ça, on peut remettre la question de l'auteur. Évidemment, elle est fondamentale, mais il faut remettre la question de dans cet écosystème, il y a effectivement un nouveau contrat social qui doit se mettre en place, mais qui intègre pas seulement les auteurs et les distributeurs, mais aussi l'utilisateur qui est devenu beaucoup plus actif et qui produit énormément de choses. Et non seulement il produit des choses de lui-même, mais il ne fait que recycler une culture dont il est dépositaire et qui est effectivement tout ce qu'il a pu assimiler de la culture traditionnelle ou des cultures issues des médias précédents. Et je terminerai là-dessus en disant qu'Internet est un système qui permet d'étendre les univers. Donc ça veut dire qu'un film, aujourd'hui, il peut être pensé comme étant étendu, comme une musique, elle va être étendue par Internet, et les utilisateurs sont des acteurs de cette extension.
Merci. beaucoup pour cette intervention. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus prendre les utilisateurs comme la fin vers laquelle on pousse des œuvres qui ne feront plus évoluer. Je crois que Michel Coq voulait glisser quelques mots.
Je voudrais justement rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je suis ici au titre de l'association Culture et Management qui fédère les anciennes 6 écoles de commerce, HEC, SEC, SCP, Sciences Po, Paris, INSEAD et EM Lyon, et qui travaillent tous dans la culture. Donc on est, entre guillemets, les managers de la culture. J'ai eu le bonheur, moi, de passer 6 ans dans une maison de disques, une major, et je parle bien de bonheur. Et j'ai eu à m'occuper justement des premiers pas de Sony Music sur Internet. Et je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que j'ai une anecdote qui est très significative sur ce qu'on peut faire, même quand on est dans une major. Vous connaissez sans doute Pascal Obispo, qui est assez connu maintenant en particulier, et qui à l'époque, en 97, voulait créer son site Internet. Alors on s'était posé la question comment le faire. J'étais allé un petit peu surfer sur ce qui se faisait sur Pascal Obispo, puis j'avais trouvé un site hyper complet, il y avait tout. Il y avait toutes les pochettes de disques, toutes les chansons. Pas d'extrait encore, parce que le MP3 n'était pas encore très développé. Mais voilà, il y avait quelqu'un qui s'appelle Hervé Le Gall qui faisait un site qui était bien meilleur que tous ceux que j'aurais pu imaginer faire moi pour la maison de disque et pour l'artiste. Je suis allé voir l'artiste, je lui ai dit voilà, il y a ça qui existe. Le gars en face semble gérable, je l'ai appelé, on a discuté. D'ailleurs, c'était lui qui avait même pris contact avec nous en disant voilà, j'ai mis ça en ligne, est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit ? De bonne foi. Et puis on a décidé avec le label, avec Epic, de rendre ce site le site officiel. Et donc, faire exactement ce que vous disiez, de donner la main à un fan, un inconditionnel, hein, toute la famille Le Gall en Bretagne est hyper fan, ils ratent pas un concert, ils le suivent dans toute la France, ils achètent tout ce qui sort. Et donc j'ai rencontré ce monsieur, il m'a dit, bah, moi j'ai, de toute façon j'ai un travail, je fais ça en plus, et on fait ça en famille, de toute façon on est tous fans. Et puis je lui ai dit, bah, voilà, on vous propose que votre site devienne le site de Pascal Obispo. Alors pour le fan, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et effectivement, je me suis posé la question, c'est quand même, ce serait normal de le rémunérer, cette personne, de lui donner quelque chose en échange. On ne pouvait pas le payer, on ne pouvait pas faire un contrat, parce que effectivement, d'abord il n'en voulait pas, et puis ça le rattachait à la maison de disques d'une manière ou d'une autre, il voulait rester indépendant, et c'était légitime. Par contre, ce qu'on a fait, et ce qu'on a fait, enfin, du temps que j'étais chez Sony Music, c'était qu'il allait en backstage à tous les concerts, il était le reporter attitré, on va dire, pour Internet de Pascal Obispo, puis lui, ça lui convenait très très bien. Et même, il venait nous prendre les PLV qu'on n'utilisait plus, enfin bon, c'était vraiment le fun. Et donc voilà, donc cette histoire, je dirais, c'est peut-être une petite histoire comme ça, bon, qui aujourd'hui n'existe plus, je pense, enfin... Les gens ont changé dans le label, l'approche a été très différente depuis, mais ça a existé. Et il n'y avait pas qu'une approche répressive en disant « on vous interdit de publier les textes de chansons, on vous interdit ceci, cela ». Effectivement, les auteurs étaient inquiets. Il y avait un site sur Cabrel au Canada où il y avait toutes les paroles de chansons. Ben, c'était illégal, donc j'ai fait un petit mail à la personne et on a pu trouver une solution. Mais dans l'absolu, c'est possible. Si le fan est gérable et si derrière on trouve un... Non, parce que oui, il y a aussi des fans ingérables, hein, faut le dire aussi quand même. Mais ça existe et ce que je voulais dire en plus, bon, là c'était pour ce point-là, donc une note d'optimisme, on va dire. Moi je voudrais parler aussi des conséquences éditoriales qui ont lieu aujourd'hui dans les grandes maisons de disques, liées au peer-to-peer. Et conséquences éditoriales, c'est certains segments de musique, certains genres musicaux ne sont plus pris par les maisons de disques. Vous prenez le rap, je vous défie de trouver des artistes de rap qui arrivent à trouver une major aujourd'hui. C'est rarissime. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui se copie le plus, et je ne parle pas de peer-to-peer, là je parle de copie sur CD, ce qui copie le plus, et disons que la maison de disques va investir, qu'elle soit indépendante ou major, d'ailleurs ça ne change rien. Pour investir sur le studio, sur les avances qu'on fait aux artistes, sur, enfin, toute la logique de production. Et en 2 semaines, ça ne se vendra plus. Enfin, ça va sortir. Et les 2 premières semaines, il va y avoir quelques ventes. Et puis après, c'est fini. Donc, les maisons de disques ne sont pas des sociétés sans but lucratif. Ça, vous le savez. Mais là, effectivement, l'économie les oblige à arrêter de sortir un certain nombre de genres qui de fait sont piratés immédiatement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est vrai que la découverte de talents, elle est plus, de plus en plus réservée aux indépendants qui arrivent à tenir le coup et qui n'investissent pas énormément en promotion, mais qui vont faire quoi? 1000 ventes dans le meilleur des cas, 2000, 3000. Donc fini les découvertes d'artistes qui vont exploser. Et les maisons de disques sont en train de rendre leurs contrats à tous les artistes non rentables. Et non rentables, ça veut dire quoi? Qu'ils vendent pas assez, ou les disques ne se vendent pas assez. C'est pas la faute de l'artiste. Il y a des conséquences assez dramatiques. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'on fait des coûts éditoriaux. Donc les émissions de télé, effectivement, M6, tout ce qui est Star Academy, etc. Parce qu'on sait qu'on va en vendre beaucoup dans un laps de temps réduit. Et après, bon, c'est piraté, ça s'arrête, mais tant pis. Donc ça, c'est une conséquence, à mon sens, grave. Le fait que des gens qui ont les moyens d'investir sur des nouveaux talents ne puissent plus le faire. Et c'est un danger. Alors peut-être qu'ils vont passer le relais, ils vont réduire leur taille. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont forcés de le faire. Hein. On ne pleure pas beaucoup dessus, mais les effectifs dans les maisons de disques sont réduits quasiment de moitié. Autre point où je voulais rebondir, c'était sur la logique que suivent en ce moment les outils de peer-to-peer. On voit qu'ils suivent le modèle de la distribution. On est dans un univers où c'est un petit peu comme si une immense Fnac faisait entrée libre et vous pouviez partir avec tout ce que vous vouliez. C'était déposé sur des tables et chacun se servait. Et d'ailleurs, c'était inépuisable. Voilà, les outils de peer-to-peer, ils suivent le modèle des distributeurs. C'est que rapidement, on va voir arriver des outils qui vont filtrer, qui vont utiliser, qui vont être rétribués pour mettre en avant certains titres plus que d'autres. Et on va retrouver l'économie, finalement, de la distribution appliquée au portail. Donc c'est déjà le cas sur Google, sur tous les moteurs de recherche qui se disent, entre guillemets, neutres, mais vous avez les liens qu'il faut acheter aux enchères, etc. Donc il y a toute une économie qui se fait autour de la mise en avant de la distribution, finalement physique ou virtuelle, du disque. Et ça aussi, c'est un danger. Qui aura accès à ça demain? Ce ne sera pas le petit indépendant qui sort son disque dans un coin. Lui, il sera au fond des linéaires, caché sous une pile de titres qui seront mieux exposés que lui. Donc voilà, je voulais juste mettre...
Merci Michel pour cette intervention. Juste maintenant quelques commentaires de Julien et ensuite Alain Lipietz conclura cette matinée.
D'accord. Donc, déjà, l'une des questions qui est soulevée par ça, c'est est-ce qu'il faut mesurer le succès d'un artiste à son nombre de ventes? Est-ce que maintenant, on assiste justement, ce qu'on a vu, à une espèce d'appropriation de l'œuvre par l'utilisateur? Puisqu'en fait, maintenant, c'est vrai, c'est plus un acte d'achat, c'est un acte. Enfin, il y a deux actes. L'acte de consommation, c'est-à-dire de télécharger comme ça, et de manger en quelque sorte la culture, et l'acte d'achat, qui est l'acte de décider que cet artiste vaut, par exemple, plus qu'un autre. Et en fait, on assiste vraiment à une modification de la consommation. Par exemple, pour le cinéma, il y a une différence entre les DVX qu'on télécharge et le DVD, qui devient un objet de collection, qui apporte un plus substantiel avec des bonus, avec des interviews, où justement l'utilisateur va s'approprier vraiment l'œuvre, parce que c'est ce à quoi on assiste. Donc la question, c'est est-ce qu'on n'a pas justement une mutation du marché vers autre chose que mesurer le succès d'un artiste à son nombre de ventes de disques? Par exemple, Florent Pagny, sur la question de ses ventes de disques, avait dit « Certes, ça a peut-être un petit peu baissé, mais jamais mes concerts n'ont été aussi pleins. » Donc c'est vrai que finalement, on peut se demander s'il n'y a pas une mutation nécessaire du marché, que maintenant, considérer que tout est basé sur le nombre de ventes, ça devient un petit peu illusoire, parce que maintenant la diffusion est gratuite, et avant c'est vrai que c'était la difficulté d'arriver à distribuer un artiste partout, et d'être sûr que c'était rentable, qui rendait l'accès difficile. Maintenant, on s'en fiche, le problème n'est plus là. La prestation musicale, maintenant, devrait peut-être dépasser le cadre d'un CD enregistré, et voilà, c'est ça un auteur, c'est ça un musicien, c'est quelqu'un qui...
D'accord, mais on revient à l'économie de la musique d'avant le disque, où finalement, tout était spectacle, vivant.
Exactement.
Mais là, c'est autre chose, vous avez des artistes de musique qui ne savent pas faire de la scène, et que pourtant, qui pourtant sont demandés, appréciés. Il faut se poser cette question, ceux-là vont-ils disparaître?
Oui, on va continuer.
Mais vraiment, ce que tu décris, c'est ce qui t'arrive à la banque, à toutes les industries, c'est qu'on est passé d'une industrie industrielle à une industrie de service. Et à côté du copyright, aujourd'hui, il y a des gens qui parlaient du service right, le droit au service, et que moi, je suis plutôt confiant pour les majors. Elles vont se réajuster à la demande nouvelle. Donc, je ne suis pas inquiet. C'est plutôt pour les, je le répète encore une fois, pour les ceux qui n'ont pas le capital et les gens. Mais je pense que c'est un phénomène industriel. Et peut-être que les majors sont les dernières à l'avoir vécu, mais ça s'est passé dans la banque, les assurances, enfin, dans tous les secteurs industriels. On a réajusté son offre. Enfin, C'était pour rebondir.
Je te confirme, ils sont en train effectivement de réajuster leur offre et d'aller vers la relation client. On appelle ça service, ce qu'on veut, mais c'est la relation client.
Eh bien, merci. Bien, maintenant, M. Anani Piet, donc, qui est député européen du groupe Les Verts, va nous dire quelques mots, donner son sentiment sur les débats de ce matin.